8h42 à Paris, tout de suite le journal des sports. Et du football, Antoine Grenier, un long mardi de Ligue des Champions en Europe et en Afrique, sur le continent africain. La première journée s'annonce de haute tenue.
8 rencontres au programme et le tenant du titre à l'affiche d'une rencontre entre historiques. Le Stade d'Abidjan, vainqueur de la compétition en 1966, affronte l'Al Ahly du Caire, tenant donc du trophée. Un défi de taille, mais les Ivoiriens entendent bien justifier leur présence dans l'élite du foot africain. Molamine Sissavané.
Non, forcément, jouer à l'Ahly au Caire, c'est un match spécial.
Match spécial, public fervent dans un stade de prestige. Alexandre Lafitte, coach du Stade d'Abidjan, veut bien démarrer cette phase de poule afin de créer une bonne dynamique. Mais le défi reste pharaonique.
Vous démarrez cette phase de groupe par une équipe composée que d'internationaux, pour la plupart égyptiens ou même marocains. On a une volonté de vouloir se challenger parce que c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour ça qu'on joue cette compétition, c'est pour affronter les meilleurs.
Se frotter aux meilleurs après avoir réussi à passer les deux tours préliminaires est en soi un bel accomplissement pour le Stade d'Abidjan, estime Guillaume Aoutou. Mais pour cet analyste, tant qu'on y est, que le Stade engrange du bonus.
C'est une équipe du Stade d'Abidjan qui va s'être croiser le fer avec un gros calibre de l'Afrique, mais qui peut jouer les trophées dans ce groupe. Mais parce que nous sommes en football et en football, tout reste jouable.
Arrivé au Caire depuis vendredi avec son équipe, le coach Alexandre Lafitte est sûr d'une chose.
Nous, sincèrement, on est ici avec beaucoup d'ambition et d'humilité. Nous, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Et donc, on va montrer un visage conquérant pour essayer d'aller chercher tout ce qu'on pourra aller chercher.
Toute cette phase de poule sera de toute façon une quête pour les stadistes, vu leurs prochains adversaires, Belouizdad et Orlando Pirates. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Le CR Belouizdad et l'Orlando Pirates qui s'affronteront effectivement dans ce même groupe.
Une journée qui démarre à 13h temps universel.
Avec le TP Mazembe, demi-finaliste la saison passée, qui reçoit le Mouloudia d'Alger. À la même heure, les Tanzaniens de Young Africans reçoivent l'Alilan Omdurman. Dans la poule B, l'AS Maniema Union se déplace sur la pelouse des Mamelodi Sundowns, tandis que le Raja Casablanca accueille le FAR Rabat.
Enfin dans le groupe D, Antoine Baten du feu de haute volée pour le Djoliba de Bamako.
Les Maliens en déplacement à 19h temps universel. Sur la pelouse de l'Espérance de Tunis, 4 fois champion d'Afrique. Mais pour autant, pas question de faire de la figuration, prévient le défenseur Ousmane Diallo.
Voilà, les deux équipes, ils ont les informations. J'ai regardé les derniers matchs de l'Espérance de Tunis. Voilà, on a des idées sur eux, comme eux aussi, ils ont des idées sur nous. Mais voilà, comme le coach vient de le dire, pour l'instant, on ne va pas venir pour essayer de bloquer ou quoi que ce soit. En l'entame du match, on verra bien comment s'adapter à l'adversaire. Le Djoliba, c'est une grande... C'est une grande équipe en Afrique, même si c'est la première fois qu'on rentre dans la phase des poules de la Ligue des Champions. Voilà, et on ne va pas s'y sous-estimer, et on va respecter l'adversaire et puis on verra bien.
Ousmane Diallo avec Edige Benyani. Dans ce même groupe, les Égyptiens de Pyramids accueillent Sagrada Esperanza.
Ligue des Champions en Europe également, 5e journée de la phase initiale et le PSG sur la corde raide.
Les Parisiens, 25e au classement et virtuellement éliminés, vont affronter le Bayern Munich à 20h temps universel. Parmi les rencontres de ce mardi, Brest, surprenant 4e du classement, affronte le Barça et puis Manchester City qui joue face au Feyenoord Rotterdam.
Merci Antoine Grenier, il est 9h45 à Khartoum. La suite ce matin de notre série de reportages au Soudan, où la guerre fait rage depuis avril 2023. Deux généraux et les troupes qui leur sont fidèles s'affrontent. Al-Burhan d'un côté et Emeti de l'autre. Une guerre violente, sanglante. La situation humanitaire du pays est catastrophique. Les deux armées sont notamment accusées d'utiliser la faim comme arme de guerre, entravant le passage de l'aide humanitaire, une aide déjà très rare. Notre envoyé spécial s'est rendu à l'hôpital Al-Shouada de Bari, la banlieue nord de Khartoum, tout juste reprise par l'armée régulière aux mains des paramilitaires des FSR. À quelques centaines de kilomètres des lignes de front, c'est une toute autre bataille qui s'y joue et elle fait désormais plus de morts que la guerre. C'est un reportage d'Eliott Braché.
Devant les portes du service de nutrition, Salwa Zakaria erre, le regard dans le vide.
Mes deux filles sont mortes de faim. La première de 12 ans, il y a 4 mois. La seconde, d'1 an et demi, est morte il y a une semaine. Nous n'avons rien à manger.
Dans le cabinet de Fatima Haroun, des bébés rachitiques se succèdent sur la balance.
Rien qu'au mois de septembre, nous avons enregistré 20 décès d'enfants de moins de 5 ans. Avant-hier, un bébé est mort ici. Nous n'avons rien pu faire. Nous sommes face à une famine de niveau 1. Mais personne ne se rend compte de la gravité des cas que nous recevons ici. J'ai reçu une famille qui, lorsqu'ils n'ont rien à manger, dilue du limon du Nil dans une assiette.
Des silhouettes fantomatiques patientent dans le hall de l'hôpital. Un jeune garçon, Fayad, la peau sur les os, est entre les mains du docteur Imad.
Quand je l'ai reçu aux urgences, il était déshydraté, en hypotension. Il manquait de sucre, d'eau, de tout. Fayad, est-ce que tu arrives à parler ?
Pas de réponse. Les lèvres du garçon remuent à peine. Ceux qui parviennent à fuir les zones cernées par les combats arrivent dans des états critiques. Raza Hussein vient de quitter le quartier de Samarab, à 1 kilomètre d'ici.
Il n'y avait pas de nourriture. Les marchés sont vides. Les gens meurent ici et là. Dans notre quartier, il y a eu 150 morts en 2 semaines. Mes voisins, par exemple, ils sont morts de dysenterie foudroyante et d'autres à cause de l'eau du puits. Et aussi, il y a la dengue. Les enterrements s'enchaînent à la va-vite pour ne pas que les corps répandent les maladies.
En plus de la dengue, la malaria et le choléra se répandent. En temps normal, ces maladies ne tuent pas si elles sont prises en charge, mais la faim en fait des fléaux, selon la directrice de l'hôpital, Hadil El Hassan.
Ce n'est pas une question de pénurie de médicaments. Ces décès s'expliquent car les défenses immunitaires des gens sont au plus bas. Avec la guerre, toutes les usines, les marchés ont été détruits ou pillés. Les citoyens sont assiégés, ils n'ont pas accès à la nourriture et on ne peut pas leur en envoyer. Il faut que des corridors humanitaires soient ouverts, notamment vers les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Dans ce chaos, il est impossible de donner des chiffres précis, mais les morts à cause de la faim sont innombrables. Ils sont les résidus de la guerre.
Alors que la faim risque de tuer plus que la guerre, l'aide humanitaire reste sous-financée. Elle est distribuée au compte-gouttes. Ici, les Soudanais se sentent abandonnés. Eliott Braché, Khartoum, RFI.
Et ces reportages signés Eliott Braché sont à retrouver sur notre site et notre application RFI Pure Radio. Direction à présent l'est de la République démocratique du Congo, où depuis la prise du site minier de Rubaya en territoire de Masisi par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les autorités de la province du Nord Kivu se plaignent du manque à gagner dans l'exploitation des minerais. Avant la guerre, le secteur minier contribuait à plus de 40% au budget de la province. Aujourd'hui, le Nord Kivu dit avoir vu sa production de coltan amputée de 100 tonnes par mois pour une valeur d'environ 7 millions de dollars. C'est notre dossier Afrique Économie. Ce matin, il est signé de Goma par Héritier Baraka.
Au siège de Kivu Mineral Resources SARL, une des entreprises de Goma qui achète des minéraux, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Yvette Mwanza est la directrice générale de l'entreprise. Elle est également la présidente de la Chambre des mines au sein du Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC au Nord Kivu. Le chiffre d'affaires de son entreprise est en baisse à cause des problèmes d'approvisionnement.
Nous avons perdu principalement dans les territoires de Masisi, Rubaya, Ngungu. Ce sont des localités qui produisent énormément de coltan. Bon, surtout pour le coltan, on ne reçoit presque plus rien. On peut faire facilement 30 tonnes de coltan par mois. Maintenant, si vous prenez le coltan battu du Maniema sur tout un mois, vous pouvez juste recevoir 3 tonnes.
La prise de Rubaya par les M23 affecte plus de 6000 creusers artisanaux qui se retrouvent sans emploi, selon la coopérative des creusers miniers artisanaux de Masisi. Beaucoup de creusers ont fui, les autres doivent se soumettre aux règles du M23, indique la coopérative. C'est qu'a également mis en avant Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, lors de son dernier passage au Conseil de sécurité à New York en septembre dernier.
Au Nord Kivu, la consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Masisi et Rutshuru au Nord Kivu lui a permis d'établir un contrôle total sur la production de coltan. Le commerce en provenance de la région de Rubaya, qui selon les estimations fournit plus de 15% de la production mondiale de tantal, génère environ 300 000 dollars par mois pour le groupe armé. Cette situation est profondément préoccupante et doit cesser.
Alexis Mohima, leader du groupe thématique mines et hydrocarbures au sein de la société civile au Nord Kivu, alerte sur l'erreur que jouent les États et les entreprises dans la situation actuelle.
Toutes ces guerres que nous vivons sont alimentées par les l'exploitation minière. Si tous ces États, si toutes ces entreprises qui s'approvisionnent en minerais dans cette zone respectent les devoirs de diligence, cela va couper tout lien entre l'approvisionnement de ces groupes armés en minerais illicites.
Le M23 AFC, en mai dernier, avait annoncé interdire à ces hommes d'accéder aux sites miniers. Cependant, plusieurs membres de la société civile dénoncent le trafic des minerais qui seraient ensuite exportés illégalement vers le Rwanda et l'Ouganda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et c'était Afrique Économie sur RFI, 8h52 à Paris, musique.
Bem dança, coladeira de nós terra, bem prender a moda antiga. Bem pra não bem lembrar tempo. Bem dança, escoladeira de nós terra. Bem prender a moda antiga. Bem pra não bem lembrar tempo.
Notre choix musical sur RFI. Bonjour Isabelle Chenu.
Bonjour Andréane.
Vous nous emmenez ce matin au Cap-Vert et ces rythmes traditionnels que l'on jouait autrefois dans les bals populaires endiablés. La chanteuse Lucie Bella sort son troisième album, ça s'appelle Moda Antiga, traduisez à la manière ancienne.
Et oui, Lucie Bella défend la manière ancienne et le patrimoine musical de son archipel. Elle veut le faire voyager, le partager. La chanteuse de 38 ans vit aujourd'hui à Lisbonne. Et comme toutes les jeunes femmes de sa génération, elle écoute du hip-hop, de l'électro, de la kizomba, tout en continuant à marcher dans les pas de la grande Cesaria Evora et de défendre la tradition, les rythmes mornas, coladeras, batouk. Pas d'école de musique ni de conservatoire pour enseigner les chansons populaires, les mythes et les histoires capverdiennes aux nouvelles générations. Alors Lucie Bella remet au goût du jour les classiques de la tradition composés par Anne Nobu ou Mario Lucio. Il est souvent question d'amour qui court toujours, on le sait bien Andréane, hein, sans qu'on arrive toujours à l'attraper.
Indumendo, bucore comi di là, mia sombra fica, mia scintido tambe. Pa disgrazia, mi lo non cai na buragas, ma bira fundo, amore cova bu cintura. Si mufraba mi marei di mundo cate mondo. Enquanto buca pega na bupe.
Lucie Bella reprend aussi des textes en lien avec l'histoire de l'île.
Oui, histoire de révolte, comme dans ce titre contestataire des années 1970, reprise du groupe Bulimundo, ode à ces paysans contraints de quitter leurs terres arides et d'émigrer pour fuir la misère. Le titre s'appelle « Gentis d'Azagua ».
Hoje moças bonita, tá monda dentro do solo quente, na meio de rapazes contente. Anos dentro da sai, nem grega papaga papanha.
Deux titres de l'album sont signés d'une jeune femme bien dans notre époque, Elida Almeida, chanteuse et compositrice capverdienne qui met en musique la douleur de l'amour, parfois du premier en l'occurrence, et une légende autour de la déesse de la mer, Yemanja. Hommage aussi dans cet album de Lucie Bella aux femmes et aux mères.
Oui, parce que dans le paysage capverdien, il y a toutes ces femmes qui vendent dans la rue, vous savez, des babioles et des sucreries dans d'immenses paniers de paille pour nourrir leurs enfants. Lucie Bella reprend ici une création du poète créole Manuel de Novas, Baloy, hommage tout doux à nos sœurs à tous, écrit le poète et chante Lucie Bella.
El ca tem vida largó, nem folgó, chal trofega que se baló. Ele é mãe de filhos, lacta se recurso,
cria fici sem pai, tá por chama destindo, vós graça a Deus, já limpas, mas se balói, já que ele é sem missão. Ele cá tem vida, largou, nem folgou, tchal trofega que se balou. Ele é mãe de filhos, lá que tá se recurso. Tá cria filhos sem pai, tá por jama destino, voz graça a Deus. Se boa tchal no esquina, ou de bois de pé de mort, hoje se venda na...
Le dernier album de Lucy Bella, notre choix musical ce matin sur RFI. Merci Isabelle Chenu.
À bientôt.
À bientôt, RFI Matin. C'est ainsi que l'on se quitte dans une minute, le journal international présenté par Clotilde Dumay. Merci à vous de nous avoir écoutés et suivis ce matin. Merci beaucoup à Christophe Pernet qui était à la réalisation, Léa Boutin-Rivière et Pierre Pinto à la rédaction en chef. Merci à eux. Bonjour Nathalie Amar.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver ici, ça fait plaisir.
Mais pareillement.
Vous êtes avec nous pour rappel sur l'actualité aujourd'hui à 9h10 et vous parlez pollution plastique avec les auditeurs ce matin.
Et oui, à l'heure des discussions de Busan en Corée du Sud pour l'adoption d'un traité international sur la pollution plastique. Vous qui nous écoutez, vous y êtes forcément confrontés en ville, sur les plages ou lorsque, on l'a vu récemment, les déchets bouchent les canalisations et provoquent des inondations. Quelles solutions, quelles alternatives au plastique ? On en parle ensemble. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prévention, prise en charge du paludisme, des spécialistes répondent à vos questions.
Demain,
prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelu.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Du 25 au 30 novembre, c'est la semaine des lycées français du monde sur la thématique « Francophonie, nos établissements créent et innovent ». Un événement à suivre sur les réseaux sociaux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec le hashtag « Semaine LFM » pour découvrir les actions éducatives innovantes menées dans les lycées français du monde. Plus d'informations sur aefe.gouv.fr en partenariat avec France Média Monde.
RFI, la sélection du mois.
Pour te dire,
Malik Djoudi.
C'est bon, encore merci beaucoup. Je pense à nos folies, de tes sublimes jours parfois.
Nicodémus, Baba Sissoko et Jitkin.
RFI Musique.